Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1944. La grande transformation est le grand essai de Karl Polanyi, économiste et historien d'origine hongroise, consacré à la formation puis à la crise de la civilisation libérale du 19e siècle. Dans cette édition française de la collection Tell, le livre examine les conditions politiques, institutionnelles et sociales qui ont rendu possible le projet de marché autorégulateur. Polanyi ne propose pas une simple histoire des doctrines économiques. Il met en relation industrialisation britannique, législation sociale, commerce international, étalon or, conflits de classe et effondrement de l'ordre européen entre 1914 et 1945. Son idée directrice est que l'économie ne constitue jamais spontanément une sphère séparée de la société. La tentative de soumettre le travail humain, la terre et la monnaie aux seules règles du marché a donc produit des désordres auxquels les sociétés ont répondu par des protections collectives. Par son croisement de histoire, anthropologie et économie politique, l'ouvrage fournit une critique structurée de la naturalisation du marché. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le marché autorégulateur comme construction politique et historique. Le point de départ de Polanyi consiste à contester l'idée selon laquelle une économie de marché résulterait naturellement de la propension humaine à échanger. Des marchés ont existé dans des sociétés très diverses, mais cela ne signifie pas que la société entière ait été organisée pour servir le marché. Le cas décisif est celui de l'Angleterre industrielle, où production, emploi et échange tendent à être coordonnés par les prix, pour que ce système fonctionne. Il faut pourtant des décisions publiques, droits de propriété, règles contractuelles, infrastructures, réforme des pauvres, monnaie stable et ouverture des échanges. Le laisser-faire ne correspond donc pas à absence de politique. Il repose sur une action institutionnelle active. Cette démonstration inverse une opposition courante entre État et marché. Chez Polanyi, le marché généralisé dépend de l'État, même quand l'idéologie libérale présente son essor comme un retrait de la puissance publique. Le livre analyse ainsi le libéralisme comme un projet de réorganisation sociale plutôt que comme la reconnaissance de lois économiques indépendantes. Cette précision est claire. Pourquoi les crises du marché ne peuvent être traitées comme de simples accidents techniques? Elles concernent les institutions qui règlent la subsistance, les droits et la cohésion collective. Deuxièmement, encastrer l'économie dans les institutions sociales. Le concept d'encastrement désigne le fait que les activités matérielles sont habituellement inscrites dans des relations sociales, politiques, familiales, religieuses ou territoriales. Polanyi oppose cette situation à une société de marché, dans laquelle les rapports sociaux risquent au contraire de devenir dépendants des impératifs économiques. Son raisonnement ne nie ni échange ni calcul dans les sociétés antérieures. Il refuse plutôt de faire du gain monétaire le principe universel qui expliquerait toute organisation humaine. Dans son approche anthropologique, réciprocité, redistribution et administration domestique constituent des modes essentiels de coordination des ressources. La réciprocité lie des groupes par des obligations mutuelles. La redistribution suppose un centre qui collecte et répartit. Administration domestique organise la production en vue des besoins du foyer ou du groupe. Ces formes peuvent coexister avec des marchés locaux. Leur intérêt analytique est de montrer que le marché ne possède pas nécessairement une autorité dominante sur la société. Cette distinction permet aussi de comprendre la portée de la modernité industrielle. Elle ne crée pas seulement davantage de commerce. Elle tente de faire des prix le mécanisme directeur de la vie sociale. Polanyi offre ainsi un vocabulaire pour examiner les institutions qui limitent, corrigent ou orientent la logique marchande. Troisièmement, terre. Travail et monnaie, les trois marchandises fictives, la critique la plus connue de Polanyi porte sur la terre, le travail et la monnaie, qualifiées de marchandises fictives. Une marchandise, au sens strict, est produite pour être vendue. Or, le travail renvoie à des personnes vivantes et à leurs capacités. La terre renvoie à la nature et au milieu de vie. La monnaie est une institution qui organise les paiements et le crédit, les traités comme des objets ordinaires soumis à offre. Demande et prix implique donc de soumettre des conditions fondamentales de existence collective à une logique qui ne les a pas créées. Pour le travail, la baisse ou instabilité du prix peut signifier chômage, pauvreté et désorganisation des communautés. Pour la terre, la recherche de rendement peut dégrader les équilibres écologiques et déplacer des populations. Pour la monnaie, les impératifs de convertibilité et de stabilité peuvent imposer des ajustements socialement destructeurs. Polanyi ne soutient pas que toute vente de travail, tout usage marchand du sol ou toute monnaie serait impossible. Il montre que leur marchandisation intégrale est contradictoire, car une société ne peut durablement abandonner ses membres, ses milieux et son système monétaire aux fluctuations sans protection. Cette analyse relie directement économie politique, questions sociales et conditions matérielles de la reproduction collective. Quatrièmement, le double mouvement entre expansion marchande et protection sociale, Polanyi décrit la dynamique des sociétés de marché par la notion de double mouvement. D'un côté, des forces politiques et économiques cherchent à étendre les mécanismes concurrentiels, à libéraliser les échanges et à rendre le travail, la terre et la monnaie disponibles pour le marché. De l'autre côté, des groupes sociaux, des institutions et des pouvoirs publics élaborent des mesures de protection face aux dommages produits par cette extension. La législation du travail, les restrictions concernant le foncier, les politiques monétaires ou les tarifs douaniers peuvent relever de ce second mouvement. Il ne faut pas le réduire à une opposition simple entre progrès et réaction. Les protections peuvent défendre les salariés et la démocratie, mais elles peuvent aussi servir des intérêts établis ou prendre des formes autoritaires. La force du modèle est de montrer que la régulation sociale ne constitue pas une anomalie extérieure au capitalisme. Elle est une réponse récurrente aux effets de désorganisation que produit la prétention à un marché autonome. Polanyi relie ce conflit à la crise de la civilisation libérale et au bouleversement politique de la première moitié du XXe siècle. Son analyse aide à éviter deux simplifications: croire que la dérégulation apporte spontanément la liberté, ou imaginer que toute intervention publique possède automatiquement une portée émancipatrice. Les institutions doivent être jugées selon les protections et les libertés concrètes qu'elles rendent possibles. En dernier lieu, de l'ordre libéral du XIXe siècle aux ruptures de 1914 à 1945, la grande transformation ne se limite pas à une théorie générale du marché. Le livre interprète effondrement de l'ordre international du XIXe siècle. Polanyi insiste sur l'articulation entre équilibre des puissances, étalon or, marché autorégulateur et état libéral. Cet ensemble a favorisé une longue période de stabilité relative en Europe, tout en reposant sur des tensions sociales et internationales profondes. Après la Première Guerre mondiale, la tentative de restaurer les anciennes règles monétaires et commerciales se heurte à des sociétés transformées par la guerre, inflation, le chômage et les conflits politiques. Dans cette perspective, la crise des années 1930 ne résulte pas uniquement d'erreurs financières ou insuffisance de demande. Elle manifeste incompatibilité entre exigence de l'économie internationale libéralisée et nécessité de préserver la cohésion des sociétés nationales. Polanyi associe cette impasse aux réponses divergentes du communisme, du fascisme et des réformes démocratiques. Son propos ne les confond pas moralement ni politiquement, il cherche à expliquer le terrain de crise sur lequel elles ont émergé. Cette dimension historique donne au livre sa densité. Elle rappelle que les institutions économiques mondiales engagent des choix de souveraineté, de démocratie et de sécurité sociale, et non de seules variables de gestion. En conclusion, la grande transformation conviendra en priorité aux lecteurs de économie politique, sociologie, histoire contemporaine, anthropologie économique et sciences politiques. Elle est également utile à toute personne qui cherche un cadre exigeant pour penser les débats sur dérégulation, protection sociale, mondialisation financière, écologie et rôle de l'État. La lecture demande de l'attention. Polanyi combine une vaste fresque historique, des discussions institutionnelles et des propositions théoriques qui ne se réduisent pas à un résumé doctrinal. En retour, elle apprend à distinguer existence des marchés et domination de la société par le marché, ainsi qu'à repérer les choix politiques cachés derrière le vocabulaire de la nécessité économique, comparé à des essais qui expliquent le capitalisme principalement par les idées économiques, les techniques ou les intérêts individuels. Ce livre se distingue par son analyse conjointe des institutions, des conflits sociaux et de l'ordre international. Il ne présente pas une recette administrative prête à emploi, et plusieurs de ses généralisations historiques sur les sociétés anciennes ont été discutées. Sa valeur durable réside plutôt dans la puissance de ces questions que devient une démocratie lorsque subsistance dépend trop étroitement des prix. Quelles protections sont compatibles avec la liberté et comment organiser l'économie sans traiter les personnes et la nature comme de simples ressources? Cette ambition interdisciplinaire explique sa place singulière parmi les classiques critiques du libéralisme économique. Si vous souhaitez soutenir Karl Polanyi, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.